Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté par Patrick et Alain en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anyanne. Alors aujourd'hui, Alain, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'un personnage qu'on croit tous un peu connaître, on sait qu'on en a entendu parler, mais en fait, voilà, tu vas nous expliquer ce qu'il en est. Et ce personnage, c'est Charles Messier.
Oui, alors c'est vrai qu'il est quand même très connu des astronomes amateurs, mais c'est vrai que pour le grand public, hein, pour tout un chacun, c'est peut-être moins le cas. Eh bien, c'est tout simplement un astronome réputé qui a œuvré au XVIIIe siècle.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la vie de Charles ?
Oui, alors déjà, Charles Messier est né le 26 juin 1730 dans une petite ville de Lorraine à Badonvillers, en France. Et donc, Charles va s'initier très tôt à l'astronomie, à l'âge de 13 ans. Et par un événement qui est bien connu de tout le monde, c'est le passage d'une comète. Alors, on l'a appelé à l'époque, hein, c'était la grande comète de 1744. Et donc, son doux nom scientifique, c'est C1743X1. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, à l'époque, elle avait vraiment marqué son temps, puisque ça a été une comète particulièrement intéressante, notamment parce qu'elle a développé une queue visible à l'œil nu. Alors ça, c'est quelque chose, on va dire, de relativement classique, puisqu'on est habitué. Hein, il y en a eu quelques-unes là, ces dernières années qui ont été très jolies, et donc avec une queue. Mais surtout, c'est que la grande comète de 1744, elle a eu une queue en forme d'éventail, et qui était formée de 6 queues visibles à l'œil nu. Et donc, ces 6 queues, en fait, hein, c'est ce qui a fait la grande
particularité, ouais,
de cette comète. Et alors là, il y a plusieurs... plusieurs hypothèses, hein, mais notamment il y a pu y avoir une fragmentation de son noyau au passage au Périhélie, peut-être aussi le noyau qui tourne sur lui-même avec différentes zones actives. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et surtout, du coup, c'est ce qui va donner, en gros, hein, faire naître une passion pour les comètes à Charles Messier.
Alors du coup... Voilà, question de base, ça n'a rien à voir avec la comète de Halley, cette comète dont tu parles là.
Ah, celle-là, non, pas du tout.
Et voilà.
Pas du tout.
On associe tout le temps Messier à cette fameuse comète de Halley.
Ben, on en reparlera plus tard. Ça sera l'occasion de reparler plus tard.
Ok, alors comment devient-il astronome, ce monsieur ?
Bah alors déjà, à la base, il n'était pas censé être astronome, hein, puisque à l'époque, hein, au XVIIIe siècle, on suivait souvent la voie des parents. Et du coup, il était plutôt destiné à une carrière judiciaire, hein, donc sans doute magistrat. Et finalement, en 1751, il va quitter sa ville natale pour rejoindre Paris, la capitale, avec comme seul talent une très belle écriture et des capacités hors pair de dessinateur. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de Joseph-Nicolas Delisle, puisqu'avec sa femme, il n'a pas pu avoir d'enfant. Et du coup, c'était une manière pour ce couple, finalement, d'avoir sous son aile un jeune. Et donc, Joseph-Nicolas Delisle, c'est un astronome réputé qui est rattaché à l'Observatoire de la Marine. Et donc, il va, comme je l'ai dit, hein, le loger, le nourrir. Il va même lui donner un salaire, hein, 500 francs de l'époque par an.
Alors, ça fait quoi, ça, maintenant ?
Ça fait de l'ordre de 2 500-3 000 euros.
Ah, quand même ?
Mais par an, hein.
Ah, par an, oui, par an.
Alors,
effectivement.
Attention,
oui. Alors là, du coup,
oui, pour nous, ça va nous paraître très peu, mais c'est quand même déjà pour l'époque assez considérable. Hein. Le but, hein, de Charles Messier, ça va être tout simplement de tenir des registres d'observation. Il est commis de dépôt, tout simplement. Et le salaire de 500 francs, oui, comme je le disais, c'est vrai que ça peut paraître généreux, en tout cas pour l'époque, mais il faut quand même savoir que toutes les observations, hein, même celles faites par Messier lui-même, en fait, avaient été à chaque fois récupérées par Delisle. Hein. Donc voilà, il y avait quand même aussi quelque chose un peu pas net à ce niveau-là.
Alors du coup, c'était quoi son travail, précisément ?
Alors, son travail, c'était essentiellement de tenir des registres d'observation. Et donc de faire les dépôts des registres d'observation de Delisle. Et pendant cette période-là, eh bien, il se trouve que le secrétaire de Delisle va l'initier à l'observation du ciel pour son propre compte.
Donc avec des instruments, du coup.
Voilà, ouais. C'est là qu'il va, ouais. qu'il va commencer à apprendre à observer le ciel, mais surtout à faire le suivi des éclipses. Et surtout, on verra que ça va avoir un retentissement plus tard, la recherche de comètes. Et n'oublions pas que c'est par ça, par les comètes, hein, auxquelles Messier a commencé sa carrière d'astronome, enfin, qu'il a eu une première passion pour l'astronomie.
Alors, on parle de sa carrière, du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Quelle était sa carrière ?
Alors, sa carrière, en fait, déjà, il faut savoir que du temps où il était, on va dire, le copiste, hein, et notamment de Delisle, on va dire qu'elle a été vraiment dans l'ombre, hein, puisqu'il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Mais à la mort de Delisle, eh bien, c'est là qu'il va commencer à consacrer son propre temps à ses propres recherches. Hein. Donc c'est en 1768 hein, que les choses vont commencer.
Oui, il devient autonome du coup. Là.
Voilà, il va commencer à faire les recherches pour son propre compte. Et donc c'est un très grand chasseur de comètes. Et surtout, il a énormément de succès, à tel point que Louis XV va le surnommer le Furet des comètes. Hein, on voit que l'aspect cométaire, hein, chez lui, ça ne le quitte plus hein, maintenant.
Alors, il y avait une histoire, non, avec Halley. Alors, peut-être tu en parleras plus tard.
Oui, on va en revenir plus tard quand on va parler plus précisément de son catalogue. Hein, on va y revenir.
D'accord, ouais.
Donc, en 1770, il va devenir membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Un tout petit peu plus tard, il va devenir astronome de la marine, le même titre qu'avait finalement son maître Joseph-Nicolas Delisle. Et en 1778, il va devenir membre de l'Académie des sciences. Alors, on parle d'Académie des sciences, parfois d'Académie royale des sciences. Bon, il y avait une petite subtilité, hein, c'est que c'est le même organisme, mais certains avaient un statut un petit peu plus, honorifique et pouvaient avoir le titre d'astronome royal, ce que n'était pas d'ailleurs Charles Messier. Et ça, eh bien, c'est pas plus mal finalement qu'il n'ait pas été astronome royal, puisque à la fin du XVIIIe siècle, ça a été quand même très chaotique en France. Pour rappel, hein, certaines têtes tombaient facilement. Et donc, lui va traverser hein, la Révolution française sans trop de soucis, et notamment justement par le fait qu'il n'était pas trop proche finalement du pourvoir. Hein, mmh. Et donc, passer la Révolution française. Et donc, entre 1758 et 1805, il va, donc à partir de l'observatoire de Cluny, hein, où il réside et où il a son propre observatoire, il va pouvoir étudier minutieusement 44 comètes, et dont d'ailleurs une vingtaine hein, ont été découvertes par Messier lui-même. Et il finira sa carrière à l'aube du 19e siècle, alors qu'il perd progressivement la vue. Et le 12 avril 1817, il va s'éteindre à l'âge de 86 ans, probablement à cause d'un AVC.
Oui, ce qui est pas mal quand même pour l'époque. Alors juste, je reviens sur l'astronome de la marine. C'était pour, trouver... plus de précision pour les navigateurs, c'était ça en fait, affiner les longitudes, les latitudes, des trucs comme ça. Non, c'est pas ça.
Alors oui.
Ou se repérer aux étoiles.
Voilà. Alors il y avait une notion de se repérer aux étoiles, c'est-à-dire que les astronomes de la marine, à l'époque, tenaient des registres pour dire que par exemple Sirius passait au méridien tel jour à telle heure. Voilà.
Et du coup, ça servait de base pour leurs calculs.
Voilà. Et donc,
de positionnement.
Alors, j'ai plus le nom. Hein. Il y avait une caisse qu'avaient tous les capitaines de bateaux qui contenait ces éphémérides et qui était absolument cruciale pour se repérer.
Ils utilisaient le sextant, j'imagine.
Ils utilisaient le sextant et aussi les étoiles. Hein. Et pour le sextant, il faut
des repères.
Il faut des repères et notamment des repères d'étoiles.
C'était une activité, un métier extrêmement important.
Voilà, complètement.
Bon, alors du coup, quand on associe à Messier ce fameux catalogue, il en est quoi, du coup ?
Alors, eh bien déjà, Messier, effectivement, on le connaît, nous, astronomes amateurs, pour son catalogue. Et évidemment, avec tout cet historique cométaire, on peut s'attendre à ce que ce soit, eh bien, un catalogue de comètes. Eh bien, pas du tout. Puisque Charles Messier, on l'a dit, hein, son objectif principal était de chasser les comètes, mais surtout de ne pas faire d'erreur. Pourquoi ? Parce que, on le sait, le ciel regorge d'objets diffus qui se ressemblent, et notamment à l'époque, qui pouvaient ressembler à s'y méprendre à des comètes. Et en 1700... Alors, les comètes, pour rappel, ça se déplace de jour en jour,
oui.
Alors que des objets sont fixes dans le ciel, les objets diffus. Et en 1758, alors qu'il attend avec impatience le retour de la comète de Halley, il va annoncer le retour de la comète de Halley alors qu'il observe la nébuleuse du crabe.
Oui, on sait qu'elle est fixe, qu'elle ne bouge pas.
Voilà. Et donc, du coup, suite à cette méprise, c'est là qu'il va commencer à se dire il faut un catalogue de ces objets diffus pour ne pas se tromper.
Et pas les confondre, oui, tout à fait. Je comprends. Très bien. Alors, quand est-il publié ?
Alors,
ce fameux catalogue, bien sûr.
Voilà, alors il va... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Messier lui-même ne publie aucun catalogue. Ses publications, elles sont faites uniquement via l'Académie royale des sciences. Et donc la première version de 45 objets va être publiée en 1774 dans les mémoires de l'Académie royale des sciences de l'année 1771. Et donc en 1780, va apparaître... pour la première fois dans la connaissance des temps, qui est publiée par l'Académie des sciences, le catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles. Et ce catalogue-là, eh bien, il ajoute 23 nouveaux objets aux 45 précédents. Et enfin, en 1781, toujours dans la connaissance des temps, c'est l'édition de référence que l'on connaît, et qui est l'édition définitive, qui a 103 objets célestes.
Alors moi, je connais un petit peu ce catalogue, mais j'ai toujours entendu dire qu'il y en a 110 objets, donc il m'en manque là.
Oui, il y a 110 objets, effectivement, il y a des manquants. Qu'il faut pas confondre, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est Camille Flammarion qui va être le premier à compléter le catalogue avec la nébuleuse 104. Et donc, pourquoi ? Bien parce qu'à l'époque, on sait que Messier l'a observé, cette...
C'est la fameuse galaxie du sombrero pour voilà, les astronomes, c'est ça, qui nous écoutent.
Effectivement, on sait qu'elle a été observée par Messier. Donc, du coup, Camille Flammarion a été le premier à rajouter cette galaxie. Ensuite, les objets 105 à 107 ont été rajoutés par l'astronome canadienne Hélène Sawyer-Hogg en 1947, puisque là encore, en faisant un petit peu de recherche historique, elle s'est aperçue que Messier avait ajouté les objets 105 à... avait observé ces objets 105 à 107. Et enfin, Owen Gingerich, en 1953, qui va rajouter les objets 108 et 109, là aussi parce que ce sont des objets qui ont été découverts par Pierre Méchain, un des grands astronomes avec qui œuvrait Messier. Et Messier, on retrouve les notes d'observation de ces deux objets, donc on l'a rajouté aussi. Et en 1966, on a le dernier objet, qui est M110, qui a été rajouté par Kenneth Glynn Jones, puisque là encore, Messier a dessiné la galaxie M110, donc on sait qu'il a observé, et donc du coup on l'a rajouté au catalogue, et ça termine cette période.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Patrick et Alain en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Alors aujourd'hui, nous parlons de Charles Messier, dont on vient de faire la biographie et parler de son fameux catalogue. On va parler d'un marathon.
Oui, alors on va peut-être terminer un peu rapidement sur d'autres...
Oui, d'autres détails.
D'autres détails du catalogue.
J'aurais oublié.
Voilà. Donc, parmi les... Comment dire les... Dans le catalogue, en fait, il y a quand même des objets qui sont assez étonnants. Déjà, il y a plusieurs choses. C'est des objets dont on sait qu'ils ont été découverts au XXe siècle. Donc, a priori, que Messier n'aurait pas pu observer. Il y en a quatre. Donc là, c'est peut-être probablement des erreurs de report hein, d'observation, notamment sur les coordonnées. Et puis, bien, les astronomes, hein, souvent, sont un petit peu étonnés, notamment parce qu'il y a des objets ben, qui sont très connus, hein, M31, qu'on voit à l'œil nu, M42, etc., la nébuleuse d'Orion.
Ouais, les Pléiades aussi, l'amas des Pléiades.
L'amas des Pléiades.
Comment peut-on le confondre avec une comète ? C'est vrai.
Voilà. Ouais. Alors, c'était... alors, pour les Pléiades, c'est très étonnant, hein, parce que là, on a un peu de mal.
Bah, surtout que le ciel de l'époque, en plus, j'imagine qu'il était bien plus transparent et lumineux que maintenant. Donc,
voilà.
C'est évident, quoi. Les Pléiades, c'est vraiment évident que c'est un amas d'étoiles.
Voilà, tout à fait. Mais, effectivement, et par contre, il y a un grand absent, c'est le double amas de Persée, si on va par là.
Oui, hein, c'est vrai.
Voilà.
Ouais.
Mais là encore, à l'époque, hein, le but était simplement de repérer les objets qui pouvaient être confondus avec des comètes. Mmh. Et comme le double amas de Persée était connu comme un amas d'étoiles, bah, du coup, il n'y avait pas de nécessité de le répertorier comme un objet diffus pouvant être confondu avec une comète. Voilà. Et donc, ironie de l'histoire, hein, si à l'époque, hein, effectivement, il servait à ne pas confondre avec des comètes, bien aujourd'hui, ce catalogue hein, n'a plus aucune utilité pour les astronomes professionnels ou pour les chercheurs de comètes. Mais par contre, ça reste un très bon outil, un très bon guide pour les astronomes amateurs.
Hein. C'est le repère de base. Hein, on commence tous avec les fameux M. Hein.
Tout à fait.
Alors, juste une petite précision. On parle d'objets tout le temps. Alors, je pense que ça serait bien de préciser pourquoi on dit objet du ciel profond, ce qui a c'est comme ça ou...
Ouais, alors j'ai essayé de rechercher, j'avoue que je sais pas pourquoi on parle d'objet.
Ça fait bizarre un objet qui est gigantesque, on a l'impression qu'on pourrait le poser sur sa commode, mais en fait,
voilà,
pas
non,
vraiment,
mais
quoi.
Effectivement, on parle d'objet céleste.
Ouais.
Alors après, il faut. Bon, là, je pense. Alors, ça, c'est ma vision des choses, mais je pense que c'est lié en fait à l'évolution de l'utilisation des noms. Par exemple, le mot découverte. Eh bien, on peut penser que c'est le premier à avoir vu quelque chose. Le mot découverte, hein, notamment au XVIIIe siècle, c'était le fait d'observer quelque chose. Alors aujourd'hui, et donc notamment dans les textes anciens, on parle souvent de découverte, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, parce que c'est réobservé. Et à l'époque, il avait aussi cette connotation de simplement d'observer. Donc moi, je pense qu'il y a un peu une connotation comme ça et d'évolution du sens du mot objet, hein, à mon avis, à travers le temps.
Bon, alors si tu le veux bien, on va parler de ce fameux marathon, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Alors, les objets Messier, on les observe, je les observe, on a l'impression... Ils sont répartis dans le ciel, un peu partout, mais ce n'est pas homogène. Alors, il paraîtrait qu'à une période de l'année, eh ben, on peut les observer tous dans une nuit, ce qui paraît étonnant parce que le soleil est toujours quelque part.
Oui, alors...
Peux-tu nous éclairer sur ça, tiens ?
Voilà, alors déjà, premièrement, eh bien, le marathon, c'est effectivement de pouvoir observer la totalité du catalogue en une seule nuit. Alors, sauf qu'on sait, nous, astronomes, qu'il y a des objets qu'on va voir en été, d'autres en hiver, et qu'a priori, ça n'est pas possible. Donc, pourquoi c'est possible ? Eh bien, parce que si les objets du catalogue Messier sont répartis quand même sur la sphère céleste, eh bien, il y a une zone, alors c'est un peu technique, hein, d'ascension droite du ciel, où il n'y a aucun objet. Et donc, de facto, quand le ciel est dans cette région du ciel, il ne va pas masquer certains objets.
Oui, le soleil, je comprends, oui. Mais est-ce que c'est par rapport au plan de notre galaxie ou ça n'a pas de lien ?
Alors déjà, il faut savoir que la plupart des objets, hein, quand même, sont dans le plan galactique.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui.
Voilà,
à part les galaxies lointaines qui, elles, peuvent être un peu partout, mais tous les amas d'étoiles, toutes les nébuleuses planétaires et les amas globulaires, tout ça, c'est dans le plan de... Enfin, plus ou moins quand même. C'est vrai que les amas globulaires peuvent être un peu en dehors.
Voilà, mais du coup, c'est vrai que c'est pour cette raison, hein, en fait,
qu'il y a une période où on peut les faire tous.
Voilà, les faire tous, voilà.
D'accord.
Donc, alors, quand est-ce qu'on peut, comment dire, observer ça ? Eh bien, en gros, c'est sur la dernière quinzaine de mars. Hein, donc, alors, En France, on a l'habitude de dire que c'est entre le 9 mars et le 6 avril. Et après, il va quand même falloir choisir une zone plus restreinte, parce que si on veut faire ça, eh bien, en période de pleine lune...
Oui, il faut l'éviter.
Voilà. Là, ça va être un peu mort.
Ça va être chaud.
Et donc, dans cette plage-là, il va falloir trouver la bonne période. Alors là, typiquement, hein, cette année, ça va être plutôt sur, à partir, on va dire, typiquement le week-end du 22-23 mars, et typiquement le dernier week-end de mars, hein, du 29-30, hein, ça va être la meilleure période.
Oui, on n'aura pas de lune du coup.
Parce que pas de lune du tout.
Faire le marathon de Messier avec une pleine lune, il vaut mieux aller dormir en fait.
Hein. Ouais, c'est ça.
Ok. Alors, juste si je peux revenir sur quelque chose qui m'intéresse.
Ouais.
Au niveau du marathon, j'en ai fait un peu le tour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quand même avec quoi Charles Messier observait et a pu faire toutes ses observations.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, voilà. Effectivement, puisque alors Messier avait deux instruments, on va dire. Un premier qui est une lunette de 90 mm de diamètre.
Ce qui est pas mal déjà, quand même.
Oui, pour un mètre de focale. Mmh. Et du coup, après, il avait un deuxième télescope, du coup, qui était un télescope de type Newton de 15 cm de diamètre pour 1,80 m de focale. Hein, donc, et avec ce télescope-là, ça lui permettait de, bah déjà d'avoir un petit peu plus de lumière et de grossir un petit peu plus. Et donc, bah, typiquement, par exemple, faire la distinction entre des amas d'étoiles et des nébuleuses.
Parce qu'on est un peu à la limite de la résolution quand même, hein, c'est ça. Hein, 150 mm, les amas globulaires, par exemple, ils ne sont pas résolus, ça reste des taches diffuses.
Oui, mais on
voit la granulosité. Ouais,
voilà, on comprend que ce n'est pas quand même une nébuleuse au sens strict du terme. Hein. Donc, du coup, voilà. Et après, alors vraiment à la toute fin de sa carrière, il a eu un télescope de 20 cm de diamètre de formule optique grégorienne. D'accord. Alors, on ne connaît plus trop ça, mais pour faire simple, c'est un petit peu l'ancêtre du Schmidt-Cassegrain.
D'accord. Alors, une question vraiment qui me passe par la tête, là. Ces télescopes étaient équipés de miroirs, mais est-ce que c'était des miroirs en verre, déjà ? Ou est-ce qu'on était encore sur des miroirs en métal, hein, je crois, à une époque
Ouais, je pense qu'on doit être un peu à la limite entre les miroirs en verre et les miroirs en métal.
Qui commençaient à se démocratiser.
Alors là, je ne pourrais pas dire dans le cas de Messier précisément, mais c'est vrai que cette partie-là hein, de historique, c'est un peu la période qui va marquer le passage des miroirs purement en verre, du moins purement en métal, jusqu'aux miroirs en verre. Mais je pense qu'en fait, ça devait être des miroirs en métal.
Pour les télescopes, parce que les lunettes, évidemment, c'est du verre.
C'est du verre.
Pas le choix, sinon la lumière ne passe pas.
Voilà, tout à fait.
Bon, bah, écoute, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur tout ça, pour conclure?
Bon, alors, pour conclure...
Quelques conseils, peut-être. Tiens, quelques conseils pour ce marathon.
Oui, alors déjà, bon, alors comme tout marathon, hein, c'est quelque chose qui se mérite. Hein.
Oui.
Il va falloir déjà un site qui soit le plus dégagé possible, hein, notamment au niveau horizon, parce qu'il y a des objets qui vont être vraiment très bas sur l'horizon.
Oui, parce que si j'ai bien compris, il faut démarrer vraiment dès que le soleil s'est couché, il ne faut pas perdre de temps, et pour pouvoir finir juste avant que le soleil réapparaisse le lendemain matin à l'est.
C'est ça. Il faut être, bon, évidemment, un site qui soit le plus éloigné des villes pour pas avoir trop de pollution lumineuse et de brume à l'horizon, hein, qui pourrait empêcher la vision des objets à l'horizon. Un site en altitude,
c'est toujours l'idéal. Oui,
c'est toujours l'idéal. Alors pour les instruments, alors en théorie, on peut faire l'ensemble du catalogue Messier aux jumelles. Alors à mon avis, quand vous allez faire déjà M1 ou M74, la Galaxy Phantom, ça va vous faire bizarre.
Oui.
Et sinon, on va dire une lunette hein, de 80 ou un télescope de 150 à 200, ça devrait être bon. Et surtout, il va vous falloir la liste des objets optimisés, hein, la liste d'observation optimisée. On ne commence pas par M1, M2, etc. Sinon, on n'a aucune chance.
Alors, juste avant de passer aux éphémérides, justement, j'allais te poser la question. Moi, j'avoue, je ne l'ai jamais fait, ce marathon de Messier, parce qu'il faut que je dorme un peu quand même. Quel est le premier objet, en fait, qui... Enfin, les tout premiers objets avec lesquels on commence, tu les as en tête ou pas?
Oui, alors c'est M74 et M77.
Ouais,
Alors,
rien que...
M74, hein, la galaxie fantôme. Hein.
C'est pas très lumineux, ça, hein, dans les lueurs du coucher, ça doit être coton quand même, hein, pour
Ouais.
démarrer avec ça. En général, tu y arrives ou t'abandonnes, c'est ça?
Et à 15, oui, alors ça, c'est aussi une chose, hein, quand on fait le catalogue Messier, on va faire les objets. Si on voit qu'on perd trop de temps sur un objet,
Ben oui, il y a un timing à respecter.
voilà, c'est soit on l'abandonne s'il est trop bas sur l'horizon, soit il est encore suffisamment haut, on passe à autre chose et puis on revient dessus plus tard. Et comme tu l'as dit, hein, on termine avec M30 au lever du soleil.
Eh ben, bon courage à tous. Après, ça, c'est quand même super de tenter
Oui, alors,
cette expérience,
voilà, c'est
hein.
une très belle expérience. Bon, moi, je sais que quand je l'avais tenté il y a une dizaine d'années, j'avais réussi à faire 80 objets quand même. Hein,
Donc, il est vraiment difficile, hein. Arriver à le boucler, c'est vraiment un marathon, c'est un challenge.
Ouais, alors moi, je sais que ce qui m'a mis dans les choux, hein, c'est qu'à 2h du matin, avec mon collègue, on avait vraiment la dalle pas possible. On a commencé à manger.
Et oui.
Et la demi-heure qu'on a perdu
Il
à
faut
faire
manger
la
en
popote.
observant, du coup. Faut une main pour le sandwich.
Elle nous a manqué pour la fin.
Ah oui, là, il faut pas cuisiner, là. Il faut amener de la restauration rapide. Bon, bref. Bah écoute, je te laisse parler des éphémérides pour la période à venir.
Alors, ce qu'on va voir dans le ciel, eh bien, donc la nouvelle lune, hein, aura lieu le 29 mars et la pleine lune le 13 avril.
Donc ça tombe très bien.
Voilà. C'est la pleine lune Rikiki d'ailleurs, hein, c'est la plus petite pleine lune de l'année de 2025. On nous parle toujours des super méga lunes
Pourtant,
XXL.
je la trouve bien lumineuse.
Eh bien, c'est la plus petite de l'année.
Par contre,
hein.
elle est quand même relativement haute dans le ciel, c'est peut-être pour
Voilà.
ça.
Ensuite, Mercure, hein, même si c'était l'une des meilleures périodes de l'année, eh bien, c'est la fin, hein, pour son observation. Pareil pour Vénus, hein, qui va revenir, ceci dit, à la fin du mois, de l'autre côté du Soleil, le matin. Hein, donc, elle va passer très rapidement de l'autre côté du Soleil. Mars et Jupiter sont superbes, hein, une grande partie de la nuit. Uranus est également visible, mais uniquement avec des instruments et en première partie de nuit. Pour Saturne et Neptune, eh ben, c'est plus visible et il faudra attendre encore la fin de l'été. Le 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps, hein, donc le jour égale la nuit. Hein, voilà. Le 23 mars, c'est l'équinoxe aussi, mais sur Saturne. Et puis bah là, on ne pourra pas observer le phénomène, mais c'est une période, une date, où en fait Saturne perd ses anneaux, entre guillemets, puisqu'en fait on ne les voit plus, puisqu'on les voit vraiment complètement par la tranche.
Et je rappelle que les anneaux, même s'ils sont très très étendus en diamètre, ils ne font que moins d'un kilomètre d'épaisseur.
Voilà.
Donc à plus d'un milliard de kilomètres de nous, ben, ça ne se voit plus. Mais ça ne dure pas longtemps, heureusement, parce que Saturne sans ses anneaux, hein, c'est un peu tristounet quand
Voilà.
même.
Après, donc le 29 mars, on a dit c'était la nouvelle lune, et eh bien il se trouve que c'est aussi une éclipse partiel de soleil. Alors dans l'Hérault, ça sera 25% du soleil masqué par la lune. Alors je rappelle, hein, si vous voulez observer l'éclipse de soleil, utilisez uniquement les filtres adaptés. On n'observe pas le soleil comme ça sans protection. Hein. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors le 1er avril, il y a quand même un événement qui est assez sympathique. C'est la lune qui traverse l'amas des Pléiades.
Alors ça, c'est très esthétique, c'est vrai.
Ouais. Et puis surtout, c'est qu'on aura un très fin croissant, donc elle sera pas forcément très brillante, et donc il va y avoir comme ça une occultation, hein, successive des étoiles des Pléiades par la lune, et donc aux jumelles, c'est magnifique à
oui,
voir.
Voilà, il faut rappeler qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément des instruments hyper sophistiqués pour faire ce genre d'observation. À une paire de jumelles, ça marche très très bien.
Voilà, tout à fait. Le 5 avril, ceux qui regarderont la lune, hein, dans l'après-midi pourront voir le X élevé lunaire, hein, ça se voit aussi aux jumelles. Et il y aura d'ailleurs un alignement, Castor, Pollux, Lune et Mars le même jour, qui sera assez intéressant. Et 5 jours plus tard, le 10 avril, on aura l'alignement parfait entre Castor, Pollux et Mars.
Voilà, c'est très joli, hein, dans les Gémeaux, hein, constellation
voilà.
des Gémeaux, Mars qui s'invite comme ça fait un joli triangle.
Voilà, là, ils sont
éphémères, mais c'est vrai que c'est assez esthétique.
Là, elles sont vraiment, vraiment alignées.
Ouais.
Et ça, c'est observable à l'œil nu, tout simplement.
Évidemment, tout à fait. Cette émission donc touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On se retrouvera le lundi 20 avril. Alain, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, écoutez, merci Patrick, et puis d'avoir parlé hein, de ce
sujet,
de Messier. Et puis, je vous souhaite un bon marathon Messier pour ceux qui le tenteront.
Voilà, tout à fait. Merci à vous.